Judith Gauthier, Fleur d'Orient, Les danseuses du sultan de Yogyakarta. Le kampong javanais est tout enfermé dans une palissade de paille et deux tourelles coiffées de chaume s'élèvent de chaque côté de la porte. Un peu en avant de l'entrée, deux bas-reliefs en pierre, antiques débris pris à l'une des innombrables et superbes ruines qui parsèment ces îles de la Sonde, rappellent des temps de grandeur et de culte primitif des Javanais. L'une des sculptures représente le dieu de la sagesse, Ganesha, qu'il nomme Badanagana. Il est assis, les jambes croisées, obèse, et sa tête est celle de l'éléphant. L'autre montre la déesse Loro Jingang, debout sur le trône hardi. Le premier de ses huit bras tient une queue de buffle, le second un glaive appelé Kugrg, le troisième et le quatrième des symboles mystérieux, le Bola et le Choukour, et du cinquième elle porte la lune, du sixième un bouclier, du septième un étendard, avec le dernier elle enlève par les cheveux Malikasur, qui est le vice personnifié. Mais ne nous attardons pas devant ces divinités rongées par le temps. Franchissons la porte derrière laquelle nous appelle un cliquettement argentin de musique. Voici de petits hommes jaunes vêtus de longs pantalons, de tuniques en indienne à ramages et coiffés de petits chapeaux iconiques. Ils secouent en mesure de bizarres xylophones ornés de bouquets de plumes roses. Et cela produit une musique douce et monotone que reproduirait assez exactement un robinet mal fermé, laissant égoutter l'eau dans un bassin sonore. Les musiciens marchent à la file. Des voici qui passent sur un léger pont de bambou. Ce pont devrait franchir une rivière, mais ne franchit qu'un gentil bateau, échoué sur le sable. Ils redescendent et continuent leur promenade processionnelle, toujours secouant les tubes de bois emplumés. Ils passent devant des huttes de bambou où, sous d'étroites vérandas, des naturels sont occupés à divers ouvrages. Les uns tressent des chapeaux en paille de riz, d'autres préparent le bambou. Employés là-bas de mille manières, les femmes de Georgia tissent l'étoffe nommée balik. Puis voici les marchands de liqueurs, le curaçao célèbre, l'habitation d'un planteur de cacao, enfin la cuisine du kampong. Et les coquilles préparent dans de grandes poêles et d'immenses chaudrons d'étranges mixtures dont la recette a l'air d'être empruntée au grimoire des sorcières. Enfin, les musiciens regagnent les tréteaux, abrités d'une tente, sur lesquels paraîtront des danseuses. Ils s'assoient par terre, au milieu de leurs confrères déjà installés. Le gamelan, c'est-à-dire l'orchestre javanais, est au complet. Cet orchestre est fort curieux, et pour nous un peu bizarre. Il faut chercher dans l'Hindoustan et en Chine surtout, l'origine des instruments qu'ils composent. La gamme des cloches, les pierres sonores graduées, les tambours, les gongs, l'espèce de harpe qu'ils appellent gamelang, sont des instruments chinois. Après l'introduction de l'islamisme à Java en 1405, la musique arabe essaya bien de supplanter la musique ancienne, mais elle ne put y parvenir. Quelques instruments nouveaux furent seulement ajoutés à l'orchestre, entre autres le rebab, sorte de violon à deux cordes. Le gamelang est pauvre en instruments avant. Une espèce de trompette nommée subing et deux sortes de flûtes, c'est tout ce qu'il possède. Mais attention, les instruments à percussion commencent à ronfler. Voyons ce que va produire cet ensemble. Oh, l'étrange et confuse harmonie! Des rumeurs, des murmures, un frisson d'arbres dans le vent, des gouttes de pluie sur les grandes fleuves rudes, des craquettements d'oiseaux, une cascade lointaine, l'écho sourd et rythmique des vagues dans une grotte marine. Rien que les bruits de la nature, une insaisissable mélodie, et quand la voix humaine se mêle au concert, inattendue, nasillarde, sans s'inquiéter de l'accord, le public s'égaye un peu. Ne doit-on pas cependant de juger ce qui est si nouveau pour nous à ce que nous fait rire? D'autres pleureraient peut-être. Ce qui nous émeut profondément les ferait rire. Confucius, un des plus grands esprits du monde, en visite chez le roi de Tsi, entendit une mélodie qui l'émotionna tellement qu'il en perdait pendant 3 semaines, 3 mois l'appétit et le sommeil. Des Orientaux d'intelligence très supérieure ont déclaré que nos meilleurs orchestres, jouant nos chefs-d'œuvre les premières fois entendus, ne produisaient dans leurs oreilles que d'affreux aboiements de chiens. Les arts, comme les deux lieux, peut-être, n'existent que pour leurs fidèles et ne sont compris que par eux. Mais l'attention des spectateurs est attirée d'un autre côté. L'orchestre se tait. Les danseuses arrivent, froissant de leurs pieds nus le gravier mouvant des allées. Elles grimpent lestement l'échelle des bambous et apparaissent sur l'estrade. Au premier coup d'œil, leur parenté avec l'hindoustan brahmanique est de toute évidence. On les dirait échappés de quelques bas-reliefs d'un temple de Mahabalipur. Elles sont musulmanes, probablement, puisqu'elles appartiennent au sultan de Djurdjakarta. Mais leurs superstitions secrètes ont des attaches plus lointaines. Et comme beaucoup des habitants de Java, elles doivent être persuadées qu'elles descendent du dieu Vishnu. Elles ont raison. Elles en descendent, en effet. Très jeunes, plus jeunes encore qu'elles n'en ont l'air, l'aînée des 4 danseuses a 12 ans. Avec leur carnation fauve, elles ressemblent à de jolies idoles dorées. De grands yeux noirs, très écartés l'un de l'autre, cernés d'un trait de kohl remontant vers les tempes, les sourcils accentués au pinceau en 2 arcs nets, le nez fin, l'ovale très pur, la bouche un peu épaisse, d'un dessin charmant, et découvrant dans le sourire de petites dents blanches, un peu espacées. Mais il s'agit d'être très grave, très hiératique et de ne pas sourire. La coiffure est d'un grand caractère. 2 des jeunes filles ont un diadème d'or ajouré, encadrant le front, comme en portent les déesses à 8 bras. Contre l'oreille, qu'elle laisse à découvert et s'appliquant sur les cheveux, une sorte d'aile en or ciselé. Sur le chignon, un poisson d'or qui dégorge une coupe rouge. À la coiffure des 2 autres danseuses représentent des hommes, car elles ont un sabre sur les reins. S'ajoute en couronne une sorte d'écran de plumes noires. Le haut du corps est nu, d'un modelé exquis malgré la gracilité des formes. Un corselet de velours brodé cache les seins et enferme la taille sans la serrer. Un caleçon violet, moucheté de blanc, s'arrête au genou et par-dessus s'enroule un pagne d'étoiles ramagées, noué par une longue écharpe jaune soufre ou rose, et se prolonge en une traîne étroite qui leur embarrasse les billets, et au sommet du bras, un bracelet d'or est fermé par un papillon. Les jambes et les pieds nus sont froissés d'une poudre qui les rend d'un jaune différent de celui des épaules. Les danseuses se sont rangées sur une ligne et font au public un salut de la main. L'orchestre reprend l'air de tout à l'heure et la danse commence. Oh, comme cela doit venir de loin! Shiva, le destructeur, a dû le premier voir de ses yeux de pierrerie cette prière mimée devant son autel arrosé de sang. Est-ce une danse, oh, à peine? Des torsions de bras et des mains, de las étirements après un long sommeil. On dirait de jolies momies conviées au bal des ombres et exprimant avec une mélancolie discrète et gracieuse leur dégoût du sarcophage. Leurs mains souples se renversent, pleines de dénégation et de refus. Non, elles ne veulent pas retourner dans la boîte d'or au parfum lourd. On y est à l'étroit. Leurs écharpes sont encore toutes froissées, malgré les coups brusques dont elles les redressent. Leurs bouches sévères expriment le dédain qu'elles éprouvent pour les choses qu'elles ont vues dans l'ombre, en attendant la résurrection, si longue à venir. Des choses qui sont déplaisantes, certainement. Et les danseuses vont, viennent, se font face, suivent à la file, avec des gestes lents, dans lesquels les mains toujours ont le principal rôle. Par moments, on croit qu'elles vont s'animer, leurs longues paupières se relèvent brusquement, laissant passer un éclair de passion. Leurs lèvres frémissent comme pour un sourire. Mais non, la fange des cils retombe, le visage reprend son impassibilité gravite et sa mystérieuse tristesse. Elle continue à ondoyer avec des poses hiératiques, et cela dure, toujours de même, sur le rythme monotone qui nous prend peu à peu, dans un versement très doux, plein de rêveries, traversé de souvenirs confus, d'insaisissables réminiscences de la patrie primitive, d'où nos aïeux sont venus, dans les temps. On croit comprendre enfin le sens de cette danse mystique, adorablement chaste. On reconnaît maintenant deux couples de fiancés. Alors c'est Rama avec Shiva, Lakshmana avec Umila, accomplissant le rite des noces devant le roi de Mithila au son d'une musique chinoise. Puis, soudain, tout cesse, c'est fini. On en est tout surpris, vaguement triste. On serait resté là indéfiniment, à regarder ces passes lentes et harmonieuses, à écouter cette musique venue de si loin, toujours la même, et depuis tant de siècles. Déjà, on commençait à l'aimer, à comprendre cette mélodie. Où reste peut-être quelque chose de celle qui charma si fort Confucius à la cour de Tsi, quelque chose de cet air déjà antique à cette époque reculée, et qui avait pour titre « Musique qui disperse les ténèbres de l'esprit et affermit le cœur dans l'amour du devoir ».